Bonjour, bienvenue à ce premier enregistrement de l'émission La Voix de la librairie, en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste, située au 565 rue Saint-Jean, à Québec. Mon nom est Catherine Doré, et en compagnie de mes invités, je vais vous entretenir de livres, bien sûr, mais aussi des événements culturels qui auront lieu à la librairie durant le mois. La Voix de la librairie, c'est d'abord une émission littéraire, dont l'objectif est de faire connaître et de parler de livres dont on parle rarement, parce qu'ils ont le défaut de ne pas avoir été édités dans les derniers mois. Vous savez sans doute que des milliers de livres amassent la poussière sur les tablettes des bibliothèques et des librairies, pendant que tout le monde fait la file pour obtenir le titre dont on vient de parler à Tout le monde en parle. Et là, évidemment, tout le monde le veut en même temps. Alors, les librairies sont en brisure de stock, les bibliothèques voient la liste des réservations s'allonger sans cesse. Alors, on en recommande, on en redemande et on en réédite, de sorte qu'on se ramasse avec plein de volumes. 2 ans plus tard, tout le monde l'a oublié et les nombreux exemplaires restants vont, à leur tour, finir leur carrière dans le bas des rayons à ramasser la poussière. Donc, moi, j'ai lancé une invitation aux clients de la librairie Saint-Jean-Baptiste, des gens que je côtoie tous les jours, ici, entourés de tous ces livres magnifiques. Et je les ai invités à venir parler de ces livres-là, qui sont sur les rayons et qui sont des livres usagés. Car la librairie Saint-Jean-Baptiste, c'est une librairie de livres usagés. Et pendant qu'on parle de librairie, j'ai ici, juste en face de moi, David, le propriétaire de la Sémillante Librairie. Bonsoir, David.
Bonsoir, Catherine.
Ça va bien?
Oui, toi-même.
Oui, ça va très bien. Écoute, je voudrais que tu me dises d'abord comment t'es venu l'idée d'ouvrir cette librairie-là.
Ben, moi, je suis un homme d'affaires. Puis... non, c'est vrai. En fait, depuis assez longtemps maintenant, peut-être 18 ans, que j'aime les livres passionnément, de plus en plus. Plus j'en lis, plus je suis accro. Et puis... j'ai travaillé dans les librairies, j'ai aimé ça, j'ai fait mes premières armes là-bas. Puis quand on m'a proposé éventuellement d'acheter une librairie, c'était déjà d'ailleurs ma librairie préférée qu'on m'a proposé de racheter. Alors le choix n'a pas été si difficile, j'ai tout acheté d'un coup et tout ça est devenu à moi.
Ouais. Puis, mais pourquoi des livres usagés? Tu aurais pu décider de partir une librairie de livres neufs. Qu'est-ce qui t'attirait vers le livre usagé?
Ben, dans l'usagé, on trouve beaucoup de choses qu'on ne trouve plus ou pas, ou plus jamais dans le livre neuf. La plupart des trésors sont usagés. La plupart des livres centenaires sont centenaires, le nom le dit. C'est ça. Le livre usagé, d'ailleurs, c'est ultra important, à mon avis, de leur redonner une seconde, troisième, millième vie. Alors, oui, pourquoi faire du nouveau quand on peut avoir du vieux encore de qualité?
La librairie, c'est pas seulement une librairie. J'imagine qu'ici, il se passe autre chose aussi.
Ah, il se passe moult choses. C'est une librairie, mais c'est surtout un lieu de rencontre. Un appendice à Robert Gifford. Une espèce de plage où les gens viennent plutôt que d'aller directement à Gifford.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un café?
C'est un café, bistrot. Librairie d'abord, ensuite café, bistrot pour finir. Il y a des spectacles de musique, de poésie, des discussions philosophiques. Ça se passe à peu près à tous les jours, des discussions un peu plus légères aussi, des amis qui se forment, on ne forme pas des amis, mais en tout cas,
des rencontres. Ça devient comme un milieu de vie.
Oui, c'est un milieu de vie. Excusez-moi, je suis un peu timide.
Alors, c'est normal. C'est, Donc, les gens peuvent venir te voir 7 jours par semaine?
Oui, 7 jours sur 7, tant que la terre est terre.
De 11h midi, tu ouvres vers...
On ouvre vers midi, une heure décente, pour tout homme honnête, oui. Et ceux à qui l'avenir n'appartient pas.
Et puis tu fermes vers?
Toujours vers 8-9 heures le soir, sauf quand il y a des spectacles, où là, ça peut durer jusqu'à 3 heures du mat. Voilà.
Très bien. Je te remercie beaucoup, David, de nous avoir présenté la librairie. On va faire une petite pause musicale et après, on va recevoir notre premier invité, Huguette.
Voir si je me serais préparé. Merci. Thank you.
T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après. Y'a tant de façons, de manières de dire les choses sans parler. Mais comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue. Et par le jeu des transparences, ces fruits dans les plis du tissu qui balancent. S'agissait pas de monter bien haut, mais les pieds sur les premiers barreaux. J'ai senti glisser le manteau de l'enfance. On n'a rien gravé dans le marbre.
Novecento, pianiste.
Bonjour Huguette.
Bonjour Catherine.
Ça va bien?
Oui, je te remercie, toi aussi.
Oui, ça va très bien. Huguette, tu es une des clientes régulières de la librairie. On se connaît quand même déjà depuis peut-être 5 mois, quelque chose comme ça.
Oui,
plusieurs mois. Tu es quelqu'un qui lit beaucoup, qui aime les livres.
Oui, j'aime les livres depuis toujours. Et maintenant, je suis à la retraite depuis environ un petit peu plus que 9 ans. Alors okay. Là, maintenant, je peux me consacrer à ma passion, là, plusieurs heures par jour.
Les livres.
Les livres, tout à
fait. Et donc, aujourd'hui, tu viens nous parler de quel livre?
Bon, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la biographie de Gaston Gallimard, qui a été écrite par Pierre Assouline.
Mm-hmm.
Et en sous-titre, on dit un demi-siècle d'édition française. Alors, j'ai choisi ce livre-là. C'est un livre que j'avais déjà lu il y a plusieurs années et qui m'avait beaucoup plu.
Okay.
Et ça tombe bien parce que cette année, justement, les éditions Gallimard fêtent leur 100e
anniversaire
de création. Oui. D'ailleurs, il y a eu une belle exposition
à la bibliothèque Gabriel-Leroy, oui.
Tout à fait. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant
de faire
un retour sur ce livre-là.
Mais ça, c'est un livre qui a été écrit en 1984?
C'est ça qui a été édité en 1984. Donc, ce n'est pas un livre récent. Mais je viens d'en terminer la relecture et je l'ai trouvé toujours aussi passionnant et intéressant. Oui.
Okay.
Oui.
Et qu'est-ce que tu retiens donc de ta lecture?
Disons d'abord, ce que j'ai aimé beaucoup du livre, c'est qu'à travers la biographie d'un éditeur qui est Gaston Gallimard, l'auteur fait un survol de tout le 20e siècle, mm-hmm. aller jusqu'aux années 1975. Alors ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en même temps, on voit tous les changements qui se sont passés au cours de ce siècle-là, et il y en a eu beaucoup. Donc, la vie de Gaston Gallimard et de la maison d'édition suit l'évolution de la société également. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Et donc, ça commence quand, Gallimard? Ça commence en 1880,
c'est ça. Alors, Gallimard, lui, il est né en 1881
okay.
à Paris. Et il est décédé à Paris également en 1975, okay. à l'âge de 94 ans. Donc, c'est presque un siècle, tout à fait. Alors, ça a été une vie bien remplie. Gallimard, au départ, il est issu d'une famille bourgeoise fortunée. Son grand-père avait fait fortune au point de laisser ses héritiers avec suffisamment d'argent pour vivre de leur rente. Alors, lui, Gaston, dans sa jeunesse, il a fait ses études au lycée Condorcet. Et je pense qu'à la fin, il n'a même pas terminé. Là, il n'a pas fait d'études supérieures. Il a décidé qu'il profiterait de la vie, puis qu'il okay. vivrait ses rentes et qu'il se donnerait du bon temps. Alors, il a fait ce choix-là, ce style de vie-là, aller jusque vers l'âge de 25 ans. Alors, sa vie se passait dans les loisirs, à fréquenter les salons littéraires.
Je lisais ici, Gaston Gallimard est un dandy qui semble destiné à suivre les traces de son père. Il n'était pas du tout parti pour faire une carrière
non,
comme il a
fait. Non, pas du tout. Son père, effectivement, c'était quelqu'un de très cultivé, qui s'intéressait aux arts, un collectionneur de livres rares et de peintures. Mais plus vers la fin de sa vie, il était un peu déçu. Et là, il a tout abandonné ses passions-là. Puis okay. là, il s'est tourné vers la vie facile, les femmes et tout.
Ah, d'accord.
Fait que Gaston, il a un petit peu hérité ça de lui aussi.
C'est dans cet environnement-là qu'il a grandi,
ouais. tout à fait. Puis, ce qui est étonnant avec Gaston Gallimard, c'est qu'effectivement, après avoir passé une jeunesse là, un peu à bambocher, quand il a été approché par l'équipe de la Nouvelle Revue Française, là, qui était dirigée par Gide, pour fonder un comptoir d'édition, bien là, il s'est vraiment investi, puis il a compris que là, la vie facile, c'était terminé. Puis okay. effectivement, il s'est investi toute sa vie dans cette maison d'édition-là. Alors, il n'était pas du tout lancé pour ça.
Il y a eu une rencontre avec Martin Dugard aussi, qui a peut-être influencé.
Oui, Roger Martin Dugard, il l'a connu au lycée. Et disons que le lycée lui a permis de se faire des amitiés, dont Roger Martin Dugard, qui a été son ami toute sa vie, finalement. Et puis, dans sa vie antérieure aussi, là, la fréquentation des salons, tout ça, on se rend compte qu'il s'est créé beaucoup de relations avec ce style de vie-là, mm-hmm. et que ces relations-là vont lui servir toute sa vie dans sa carrière, mais aussi quand il y aura des difficultés là, à l'époque de l'épuration, là, après la guerre,
oui.
Ça va lui servir, ces relations-là aussi.
Oui. C'est un bon relationniste,
tout
je pense.
Fait, tout à fait. Je pense que Gaston Gallimard, c'était quelqu'un qui... C'était un dandy, mais c'était quelqu'un, un homme charmant, qui avait une façon de se présenter, d'interagir avec les gens, qui était un petit peu du 19e siècle, mais... qui était chaleureux, qui s'intéressait plus aux émotions, aux gens qu'aux idées. Mm-hmm. Et puis, il a su se créer des bonnes relations dans tous les milieux avec cette personnalité-là.
Oui.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais
vous
dire d'autre. Mais
pourquoi tu t'es intéressé dans la personnalité de Gaston Gallimard?
Bien, je dirais que c'est sa curiosité, son intérêt pour les belles lettres. Sa façon de faire avec les gens, qui était toujours chaleureux, et son amour qu'il avait pour les auteurs aussi. C'était quelqu'un de curieux, de fonceur, qui a pris des risques, qui a parti toutes sortes de choses, qui a élargi sa maison, pas seulement qu'à l'édition de livres, mais aussi à partir des revues, à partir des journaux.
C'est un petit peu ambigu, son sentiment par rapport aux auteurs, hein, parce que parfois, il dit des choses qui ne sont pas très gentilles
sur
les auteurs.
Oui, tout à fait.
J'ai trouvé un extrait ici, il dit « Un auteur, un écrivain, le plus souvent, n'est pas un homme. C'est une femelle qu'il faut payer, tout en sachant qu'elle est toujours prête à s'offrir ailleurs. C'est une pute. »
Oui, tout à fait. C'est pas très gentil. Mais en même temps, il y avait un attachement envers ses auteurs et surtout une patience, parce qu'il s'est rendu compte dans l'édition comment parfois les auteurs pouvaient avoir toutes sortes de caprices et d'exigences. Je me souviens d'un auteur, entre autres, qui se plaignait parce que dans la typographie qui avait été choisie pour son livre, l'accent sur conflit sur le O n'était pas assez ouvert. Donc, il devait faire face à
toutes sortes de situations.
Donc, c'est une opinion là, sur les auteurs qui... Bon.
Mais il l'a dit quand même.
Il l'a dit, tout à fait. Puis là-dessus, je trouve qu'elle souligne... traite très bien son sujet, parce que c'est pas une hagiographie là, où il encense Gallimard. Non, je pense qu'il a une vision assez juste du personnage. Oui. Et il n'hésite pas à souligner ses défauts non plus. Oui. Il n'hésite pas à dire qu'il est roublard et menteur. Malgré tout ça, on sent qu'il s'est attaché à son personnage. Et il nous le rend sympathique aussi.
Oui, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai. Puis c'est très intéressant aussi la manière dont il nous raconte la compétition avec Grasset.
Oui, tout à fait. Où les deux maisons évoluent à peu près à la même époque et les deux jouent sur le même terrain. Donc, ce sont deux compétiteurs, mais des personnalités tout à fait différentes. Mm-hmm. Autant Gaston Gallimard est quelqu'un de charmant et tout. Grasset est assez cassant et lui, disons que ça va... cette personnalité-là ne l'aidera pas là, quand il sera en difficulté. Mais les deux éditeurs se volaient des auteurs, donc ils étaient très durs l'un envers l'autre et tous les coups étaient permis, même les coups les plus bas. Mais les deux s'estimaient énormément et se respectaient.
Oui. C'est une époque où il y a eu des bouleversements dans le monde de l'édition, où on a commencé, on est passé, disons, à une période où c'était plus artisanal, à tout à coup une production beaucoup plus industrialisée, si on veut.
C'est ça. En effet, disons que au cours de la Première Guerre mondiale, Gaston Gallimard est allé en tournée aux États-Unis avec le Théâtre du Vieux-Colombier, dont il était administrateur. Et pendant cette période-là, il a appris beaucoup. Puis il a réfléchi aussi sur son métier, puis il s'est rendu compte que si les éditions devaient fonctionner, il fallait changer de style, passer d'un style plus commercial et laisser l'artisanat. Là. Alors, quand il est revenu là, de la guerre, il a mis de l'ordre dans la maison, puis là, il s'est structuré davantage, il s'est doté d'un comité de lecture, tout ça. Et il a élargi aussi sa palette en publiant des livres plus commerciaux.
Oui, oui, il a vraiment publié toutes sortes de choses, ce Gallimard.
Toutes sortes de choses,
il a vraiment attiré dans toutes les directions.
Tout à fait. Et puis à ce moment-là aussi, il a dû lutter un petit peu contre les gens qui étaient dans sa maison, son comité de lecture, qui, eux, évidemment, poussaient plus la littérature pure. Mais il a fini par faire accepter le fait que s'il voulait vivre, bien, il fallait vendre des livres qui se vendent. Il fallait publier aussi des livres qui se vendent, ce qui permettrait de faire publier des livres dont la vente est très limitée.
Oui.
Et aussi, il est arrivé une époque où le monde changeait. Donc, Grasset s'est mis à faire de la réclame dans les différentes revues, les différents journaux. Et, bon, Gallimard a dû suivre aussi, et ça, ça l'a soulevé aussi, toutes sortes...
Oui, j'ai retenu un passage justement là-dessus. Ça semble justement dans les intellectuels à Paris, quand il a commencé à faire de la réclame. Il y a des gens qui ont pris ça très mal. Et puis, je vous lis un extrait ici. Georges Duhamel y voit le signe d'un certain relâchement de la moralité et lui reproche de se substituer à la libre critique pour imposer aux multitudes des jugements soutenus uniquement pour des raisons d'argent. À ses yeux, la publicité littéraire est un artifice bas et vulgaire auquel le noble métier des lettres devrait s'honorer de ne pas recourir par dignité professionnelle.
Voilà.
Fait que ça a été vraiment tout un débat quand on regarde ça aujourd'hui, où est-ce qu'on en est rendu. Puis le fait de faire quelques réclames, ça a soulevé de l'indignation.
On voit un petit peu l'esprit du thème. On voit aussi que le monde change et puis on se rend compte que la marchandisation d'un peu tout, ça relève pas seulement des années 80. Là, on est dans les années 1923.
Tout à fait.
C'est ça. Et ça va aller beaucoup plus loin parce que dans les années à peu près 1953, là, va s'introduire le marketing comme tel, avec vraiment les stratégies de vente et tout. Alors, mais on voit que ça, déjà dans les années 20, c'était déjà sur la table.
J'aimerais qu'on parle aussi de la période de la Deuxième Guerre mondiale,
oui.
Lorsqu'il a dû faire un choix entre s'exiler ou continuer à éditer avec les conditions dans lesquelles il était, où il devait quand même collaborer avec l'occupant.
C'est ça. Disons que ça a été un choix difficile, là. Lui, évidemment, s'était exilé en zone libre, et puis là, il ne savait plus trop est-ce que je continue ou pas. Et finalement, il a décidé de revenir aussi pour, en même temps, bien, permettre à ses auteurs de vivre, puis que sa maison ne s'éteigne pas non plus. Par contre, là, la France était occupée, mm-hmm. les Allemands étaient à Paris, donc la censure était complète, on peut dire. Alors, tous les éditeurs, pas seulement Gaston Gallimard, mais tous les éditeurs devaient soumettre leurs manuscrits à un comité de censure pour obtenir un imprimatur. Alors ça, ça n'a pas été évident. Et même les Allemands s'organisaient pour prendre des parts financières dans les maisons d'édition. Ça, Gaston Gallimard ne voulait pas ça du tout. Mm. Alors, il a réussi à garder son autonomie financière en acceptant que Drieu La Rochelle, qui était un fasciste, prenne la direction de la Nouvelle Revue française. Donc, il a comme un peu sacrifié la NRF pour sauver la maison d'édition. Mm. Et, bon, il a fait un peu comme tous les éditeurs à ce moment-là. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait avec ce qui était là. Donc, mais lui, contrairement peut-être à Grasset qui écrivait beaucoup aux Allemands quand ça ne marchait pas pour se plaindre, lui, Gaston Gallimard, se déplaçait et allait négocier sur place. Donc, il n'a pas laissé d'écrits douteux là, qui pouvaient lui.
Il était habile, hein?
Il était très habile, très rusé, fin stratège, tout à fait, oui. Alors, avec ça, ben, il a passé à travers les années de la guerre, quand même réussi à faire publier des livres et à faire vivre sa maison. Là.
Parce que c'est sûr que c'est vraiment pas un choix facile. Puis tous les intellectuels français ou de n'importe quel pays où on est occupé, quand on est un intellectuel, il faut qu'on se prononce sur les événements, il faut qu'on critique. Et là, tout à coup, si tu parles, tu te fais emprisonner. Alors, est-ce que tu pars? C'est vraiment pas évident comme choix.
C'était difficile aussi parce que, justement, les intellectuels étaient partagés. Il y en a qui vraiment collaboraient faisait la promotion de la littérature allemande et de propagande et tout ça. Donc, c'était pas évident de naviguer à travers tout ça.
Après la Deuxième Guerre, on lui a quand même reproché un petit peu le fait d'être resté, mais enfin, bon, c'était ça ou c'était rien du tout.
Oui, c'est ça.
Et la Maison Galipard a pris vraiment un autre envol à partir du milieu des années 50, je dirais.
Oui, c'est ça. Donc, après la période de l'immédiat après-guerre, là, oui. Où il y a eu, l'épuration comme telle, puis effectivement, les maisons d'édition là, ont été soumises à des enquêtes et tout ça. Mais comme Gaston n'avait pas laissé de traces, il avait gardé ses relations qui ont pu témoigner pour lui que, dans le fond, il a travaillé pour la France.
Ouais.
Et puis, donc, il s'en est bien tiré, lui. Ce qui n'a pas été le cas de Grasset, qui a eu un portrait, qui a eu un procès, et puis qui a perdu sa maison, finalement. Ouais. Et d'ailleurs, ça a ruiné sa santé, là. Ouais. Il s'en est pas remis de ça. Mais après la Deuxième Guerre, effectivement, là, il y a eu... l'époque changeait. Mm-hmm. Et puis, là, il y a eu un renouvellement là, dans le monde littéraire parce que les anciens, bien, ils étaient soit morts ou ils étaient discrédités, comme Monterland, tout ça, Céline. Alors là, c'est les plus jeunes là, qui prenaient le haut du pavé, comme Sartre, Camus, Malraux, Vercors. Et puis, c'était vraiment... ces jeunes-là étaient prometteurs. C'était eux autres l'avenir.
Mm.
Et Gallimard, il n'avait pas besoin de se les approprier. Ils avaient déjà. Donc, ça lui a permis là, d'aller de l'avant. Et puis, à cette époque-là aussi, Gallimard a voulu lancer d'autres revues pour remplacer la NRF là, qui avait été condamnée, qui ne pouvait plus publier. Alors, c'est là qu'il a lancé la revue avec... c'est-à-dire qu'il a aidé Sartre à lancer sa revue « L'État moderne », qui est une revue qui a marqué tout à fait l'époque aussi.
Oui, oui.
Et c'est là aussi qu'il a parti une autre revue qui s'appelle « Les cahiers de la Pléiade ».
Oui.
Et aussi, à l'époque aussi, « La série noire » avec Marcel Duhamel, qui était aussi très populaire.
Oui.
Alors, tout ça lui a permis de faire des sous, puis de développer sa maison, puis de s'étendre. Et à l'époque aussi, il y a d'autres jeunes qui sont entrés dans la maison. Il y a Michel Gallimard, qui était le fils de son frère.
Oui, son neveu.
Son neveu, c'est ça, qui s'est joint au groupe. Et d'autres jeunes aussi, comme Camus et Dionys Mascolo, qui ont rejoint l'équipe aussi.
Donc, il y a eu une belle fin de carrière.
Oui, oui, c'est ça. Alors, Gallimard, évidemment, ensuite, son fils Claude, qui est entré dans la maison, et tranquillement, vers les années 60, a commencé à transmettre un petit peu ses pouvoirs à son fils Claude, qui était très différent, qui ne voyait pas les choses comme son père, mais même, le transfert s'est quand même bien fait. Et,
qu'il y avait de différent avec Claude? Qu'est-ce que Claude voyait?
Bien, lui, c'était plus quelqu'un qui était plus côté commercial, plus juriste et tout ça. Puis c'est vers ça qu'on l'a orienté là, quand il est rentré dans la maison. On l'a fait participer au comité de lecture aussi.
Mm-hmm.
Et puis, tranquillement, il a appris le métier. Puis, alors, quand son père a commencé à diminuer un petit peu, parce que j'avais pris vraiment de retraite, là, Gaston Gallimard, même à la fin de sa vie, allait à son bureau tous les jours. Et puis, il participait au comité de lecture, mais là, il était rendu un peu sourd, puis il ne voyait plus trop clair. Donc, il faisait plus écouter que de participer comme tel. Mais il était très lucide, il a toujours été très lucide. Et il a regardé ça pas mal jusqu'à la fin, parce qu'on dit... Gallimard, Gaston, en 1975, il avait 94 ans. Bon, il était un peu santé fragile et tout ça. C'est un peu normal, mais très lucide d'esprit. Et finalement, au retour de vacances, là, dans le midi, il s'est pas senti bien. Alors, on l'a hospitalisé. Puis même à l'hôpital, il parlait encore des femmes et de la littérature. Et puis finalement, il s'est éteint comme ça tout d'un coup, là, tout tranquillement, tout doucement, sans souffrir. Alors, il est parti comme ça, en douceur.
En tout cas, il a fondé une entreprise impressionnante. On disait que c'était peut-être le seul, en tout cas Pierre Assouline dit que c'est peut-être le seul qui pourrait dire la littérature française, c'est moi.
Tout à fait.
Entre 1919 et 1935, Gallimard est l'éditeur le plus couronné avec 8 Goncourt sur 17.
Oui, tout à fait.
C'est quand même quelque chose.
Tout à fait. C'est quelqu'un qui voulait beaucoup ramasser les prix et qui essayait de vraiment compétitionner. Et il en a eu beaucoup, plusieurs sortes de prix aussi, les prix Renaudot, le Fiemina. Oui, je pense qu'il a fait une carrière éblouissante. Et aujourd'hui, le fonds Gallimard, c'est un fonds quand même très solide, très réputé. Et c'est une maison d'édition qui, encore aujourd'hui, occupe une place, je ne peux pas dire la première, je ne suis pas assez au courant, là, mais je pense une place très importante là, dans
encore.
Le monde.
Encore,
aujourd'hui.
Tout à fait, parce qu'ils éditent vraiment toutes sortes de choses pour enfants, des revues.
Une palette très large.
Très large.
C'est devenu un empire.
Merci beaucoup, Guette.
Ça me fait plaisir.
On va prendre une petite pause musicale et ensuite, normalement, on va revenir avec M. Grigorov s'il est arrivé. Musique. nous sommes de retour pour la chronique événements du mois. Je vous avais dit en début d'émission que je vous parlerais des événements qui auraient lieu à la librairie durant le mois. Alors ce mois-ci, le samedi 12 novembre à 19h30, Émile Grigorov, qui est chargé de cours au département de philosophie de l'Université Laval, donnera une conférence intitulée « Dostoïevski, le messager de l'autre monde ». Bonsoir, M. Grigorov.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Oui.
Donc, vous enseignez à l'Université Laval?
Oui, je suis chargé de cours à l'Université Laval.
Et ça fait longtemps?
La première fois que j'ai donné un cours à l'Université Laval, ça fait combien? Ça fait 13 ans, c'était en 99.
D'accord.
J'étais encore étudiant en doctorat.
OK.
Puis il m'est arrivé encore trois fois de donner des cours à Laval, notamment la session dernière. J'ai donné un cours sur la littérature et la philosophie après Auschwitz.
Ah oui?
Oui. Et cette session, c'est un cours sur Dostoïevski. En fait, je redonne ce cours. Je l'avais donné une fois en 2005. Donc, c'est pour la deuxième fois, mais c'est fort différent. Donc,
Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir faire une conférence à la librairie?
C'était, disons, mon amitié avec David. Il paraît que certains de mes étudiants avait parlé devant lui de ce que je leur parle en classe. Alors, il lui est venu l'idée de m'inviter, puis j'ai accepté avec plaisir. C'est très important pour moi, parce que j'aimerais parler devant un auditoire plus large, devant des gens de tous les âges.
Donc, c'est une conférence qui s'adresse à tous. C'est ouvert pour tout le monde.
Absolument, absolument. Et c'est pour ça que j'ai choisi...
Excusez-moi, j'ai eu un problème avec mes écouteurs. Vous aussi, je pense.
Oui. J'ai choisi un titre accrocheur, comme ça, mais qui donne une idée de ce que je vais parler, puis de la façon dont je conçois l'œuvre de Dostoïevski. Ouais.
Donc, le messager de l'autre monde, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, premièrement, Dostoïevski, il est venu quasiment littéralement de l'autre monde, comme il était condamné à mort. Et c'était la dernière minute qu'on a remis la peine. On a remplacé la peine capitale par le bagne.
Oui, oui.
Mais il a vécu l'expérience de la mort et ça a changé sa vie. Et c'est ça qui a ouvert un nouveau horizon devant lui. Il s'est rendu compte que la vérité n'est jamais accessible dans ce monde, dans le monde où l'on vit.
Mais il a commencé à écrire après son expérience en prison?
Non.
Il écrivait déjà.
Il a publié quelques livres, dont le premier était vraiment un grand succès. Ensuite, les autres n'étaient pas quelque chose de remarquable, mais les grands romans de Dostoïevski, les romans que tout le monde connaît, que des millions d'hommes aiment, sont écrits après le bain,
après son expérience,
et on y voit excusez-moi, on y voit que les personnages qui nous transmettent les messages les plus importants de l'auteur sont tous des étrangers venus de très loin, que ce très loin soit un lieu dans l'espace géographique ou dans l'espace social. Ce sont des idiots, des hommes du souterrain, des saints, des possédés, mais des gens dont la parole et la conduite étaient fort provocatrices à l'égard du sens commun et en quelque sorte révélatrices de la vérité.
Dostoïevski était croyant.
Oui, il était profondément croyant. Et comme...
Est-ce que vous faites un lien avec le messager de l'autre monde et sa foi?
Oui, absolument, absolument. Absolument, parce que dans le personnage, je dirais, un personnage qu'on retrouve dans plusieurs romans de Dostoïevski, mais qui n'a jamais été nommé par son propre nom, c'est notamment le Christ.
Ah oui?
C'est notamment le Christ, oui. Tel qu'il l'imaginait, tel qu'il l'aimait. Il lui donnait des différents noms. Et un de ces noms, c'est l'idiot.
Ah oui.
Mais pour comprendre la signification profonde de ce mot, il faut se rappeler qu'en grec, idiotes, le mot signifiait quelqu'un qui est à la fois dans ce monde et hors de ce monde, qui n'est pas attaché à ce monde, qui est détaché de ce monde, et notamment parce qu'il est détaché de ce monde, il pouvait le voir plus clairement que ceux qui sont rivés dans ce monde. Alors c'est ça l'idiot, c'est celui qui voit plus clairement et qui a un accès direct à la vérité.
On parle aussi, j'ai lu sur Dostoïevski l'idée que l'existence chez tout être humain, il y a un besoin inné d'imitation. Et pour Dostoïevski, seule l'imitation du Christ, du fait de sa nature à la fois divine et humaine, peut déboucher sur une société juste et sans violence. Et il redit souvent Dostoïevski que c'est la foi qui peut sauver le monde et qui peut faire qu'on vit dans un monde qui est humain.
Oui, oui, c'est vrai. Il pensait que la foi est... Il n'y a pas de salut hors de la foi, il n'y a pas de salut hors de l'Église, mais l'Église conçue plutôt comme une société solidaire, mm-hmm. et non pas comme une institution de pouvoir. Il avait d'ailleurs beaucoup de problèmes avec l'Église officielle orthodoxe. Et sur ce point, son destin ressemble à celui, par exemple, de Nikos Kazantzakis, un autre grand écrivain grec et profondément croyant qui a été excommunié par l'Église orthodoxe russe, grecque, et qui a été enterré sur une colline près d'Athènes, parce qu'il lui était interdit, on a interdit à sa famille de l'enterrer dans les cimetières orthodoxes. Mm-hmm. Et quand j'y pense, je me rends compte que les penseurs, les écrivains, les philosophes les plus profondément croyants avaient toujours eu des problèmes avec l'Église.
Avec l'Église.
Ouais. Et puis Dostoïevski, il s'attaque directement à l'Église, à l'Église catholique, au catholicisme, mais on reconnaît dans l'image de l'Antéchrist des traits de l'Église orthodoxe aussi. Donc c'est une foi, la foi de Dostoïevski, c'est une foi...
On peut continuer.
Ouais. C'est une foi très humaine, et une foi je me permets de la qualifier comme une sorte de, d'anarchisme religieux.
Ah, si.
Oui, c'est-à-dire une foi qui ne... qui s'abstient de se conformer au canon religieux.
À aucun modèle.
À aucun modèle. Parce que, selon lui, le christianisme et le Christ, c'était d'abord et surtout le symbole de la liberté.
Dostoïevski a inspiré des existentialistes aussi.
Oui, il a inspiré beaucoup. Albert Camus, par exemple.
Oui.
Et beaucoup d'autres.
C'est étrange.
Je trouve que c'est logique, que c'est tout à fait compréhensible, puisque notamment le nœud de sa pensée, c'est la liberté. C'est la liberté. La liberté de conscience et la liberté de... je vais utiliser une formule paradoxale, la liberté d'aimer. Parce que dans ce monde, ce qui est le plus difficile, et ce qui est le sentiment le plus opprimé, c'est notamment l'amour. Alors il voulait, je ne sais pas s'il a réussi, mais il voulait libérer l'amour. C'est ça la foi, c'est ça le christianisme en fin de compte, selon lui.
Bien, sur ce, merci beaucoup, M. Grigorov. Pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir à la librairie Saint-Jean-Baptiste le 12 novembre à 19h30 pour vous entendre parler de Dostoïevski. Permettez-moi de trouver le reste du titre.
Le messager de l'autre
monde. Le messager de l'autre monde. Merci beaucoup. On va à une petite pause musicale.
Merci beaucoup à vous.
Alors, nous sommes de retour pour notre deuxième invité du mois, Xavier. Bonjour, Xavier.
Bonjour, Catherine.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien.
T'as une belle voix au micro.
Oui, hein, c'est pas pareil quand on s'entend dans le micro, ça fait différent. Xavier, tu es un habitué de la librairie comme moi. On est habitué de se croiser ici régulièrement. Puis tu as été très gentil d'accepter de venir me présenter un livre ce soir. De quel livre vas-tu nous parler?
En fait, je vais parler de Novecento. C'est un livre qui m'a fait découvrir un de mes écrivains favoris. C'est un livre assez charmant. En fait, ça raconte la vie d'un musicien. Je pense que c'est un, une espèce de fantasme de chaque pianiste de s'identifier à ce musicien-là. Je crois que, David, on a lu un extrait tantôt.
Oui, on va le faire jouer tout à l'heure.
Puis c'est ça, en fait, vous allez savourer ce petit extrait-là. Mais ouais, non, c'est excellent. Puis Alessandro Barrico, c'est vraiment un monde bien à part. Puis j'aime bien ça.
Et qu'est-ce que ça a été pour toi, Novecento, quand tu as découvert Novecento? Qu'est-ce que tu as découvert?
Ben en fait, Novecento, moi, plus jeune, bon, évidemment, j'étais un peu un rescapé. J'aimais bien la musique, puis je me suis retrouvé à travers ça. Puis Novecento, c'est un peu une espèce d'idole de la musique qui n'a jamais existé. C'est vraiment un personnage fantastique, mais en même temps, qui aurait pu vivre, puis que d'ailleurs, Alessandro Barrico le fait vivre vraiment habilement. Je veux dire, il est inspirant. C'est un peu l'archétype du musicien modeste, un peu insouciant, qui s'en fait pas trop, puis en même temps, qui incarne la transcendance à travers sa musique. C'est vraiment un peu un petit rebelle à la fois aussi, puis tu sais, il s'en fout. Puis,
mais il vit sur un bateau. Tu peux nous raconter l'histoire pour qu'on puisse suivre?
Novecento, il se fait trouver quand il est jeune à Boston. C'est un vieux marin qui s'appelle Danny Boonman qu'il retrouve. Puis il prend dès qu'il est bébé, il le retrouve sur un banc de piano. Ses parents l'ont laissé là. Puis lui, le vieux marin décide de le prendre, puis de l'amener en mer. Puis en fait, Novecento grandit en mer. Puis à l'âge de 8 ans, il s'assied devant un piano, puis commence à pianoter. Puis évidemment, bon, là, le génie le pousse à devenir ce qu'il est, donc un grand virtuose. Il apprend le piano en autodidacte. Donc c'est un peu, comme je disais tantôt, un fantasme de chaque musicien. Puis bon, il acquérit son expérience à travers les pièces qu'il joue. C'est un peu l'incarnation du jazz, puisqu'il a appris toujours en improvisation. Puis ensuite, bon, évidemment...
C'est comme le jazzman idéal qui a pas été influencé par aucun autre musicien.
Ouais, mais c'est un peu... Ouais, exactement. C'est un peu un emblème du jazz. Ben, peut-être pas, mais je veux dire... ce qui est le fun, c'est qu'il rit un peu de tout ça. Dans le fond, à un moment donné, justement, dans l'histoire, il y a un duel contre pianiste complètement légendaire. Puis on voit que Novecento fait pas ça pour la notoriété, mais loin de là. Je veux dire, c'est un peu un duel un peu étrange. Je veux dire, Novecento, il voit pas vraiment l'espèce de dualité. Il a jamais connu ça, il sait pas ce que c'est performer dans un sens justement de dualité. Lui, il a toujours fait ça pour son propre intérêt. Je veux dire, c'est ça qui est beau, je pense, de ce personnage-là. C'est vraiment l'espèce de naïveté. Oui, naïveté par rapport à ça.
Moi, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté sur disque lu et j'ai trouvé que c'était très, très rythmique, très musical, l'écriture même. Puis j'ai découvert après que Barrico avait étudié en musique.
Tout à fait. Moi, je vous dirais que ça paraît aussi, ça transpire beaucoup dans son style de narration. Lire ses livres, c'est une musique enivrante. C'est assez... on dirait que tu vogues sur la mer, puis contrairement au boss qui nous joue dans les arènes.
Oui, on a un boss terrible dans nos écouteurs.
Mais non, c'est ça, en fait.
Ah, voilà, merci.
Barrico, je trouve que ce qui m'attire beaucoup chez cet écrivain-là, c'est un peu, moi, c'est un peu mon Novecento de la littérature, dans le sens que il est très unique, puis il joue vraiment avec la syntaxe. Sa ponctuation, c'est vraiment une longue pièce musicale quand on lit un de ses livres, notamment Novecento. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi pour ce soir.
Ah oui, on dit que c'est une pièce à mi-chemin entre une pièce de théâtre puis un conte lu à voix haute. C'est présenté comme un monologue théâtral.
Exactement. D'ailleurs, au début du roman, Barrico nous invite à lire ce roman-là à haute voix. Puis je pense que ça vaut clairement la peine de le faire puis de pas être gêné, là, au pire, on va se cacher, là, puis on fait ça en cachette, là. Non, ça, c'est clairement, c'est vraiment une pièce très unique. Barrico, je pense que ça peut rejoindre des gens de n'importe quel âge. C'est ça que je trouve beau un peu. Puis c'est un écrivain contemporain, donc il est assez... Ça fait pas longtemps qu'il est sorti ça. C'est sorti en 94, ça a été traduit en 97. C'est un excellent roman, un excellent écrivain. Ça ouvre des portes à vraiment une belle œuvre littéraire. Ce que j'aime de Barrico, c'est qu'on peut vraiment... il a vraiment innové dans un style. D'ailleurs, il y a il y a une école de narration en Italie qui a parti avec ses amis, ouais. Puis c'est fort, fort intéressant de savoir qu'il s'implique autant que ça dans le domaine, en fait, c'est bien.
Bien, merci beaucoup, Xavier. Sur cette belle fin, on va écouter donc un extrait de Novecento, lu par notre libraire préféré, David.
Bien, merci bien, bye bye.
Novecento, pianiste, Alessandro Baricco. Ça arrivait toujours, à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on y était, plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les émigrants, et d'autres gens bizarres, et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul, sur tous ceux-là, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là, en train de manger, ou de se promener, simplement, sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan, et il la voyait. Alors il s'immobilisait, là, sur place, et son cœur battait à en exploser, et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait « L'Amérique !» Et puis il restait là, sans bouger, comme s'il devait rentrer dans la photo, avec la tête du type qui se l'est fabriqué tout seul, l'Amérique. Le soir, après le boulot, et des fois aussi le dimanche, son beau-frère l'a peut-être un peu aidé, celui qui est maçon, un type bien. Au départ, il voulait faire juste un truc en contreplaqué, et puis il s'est laissé entraîner, et il a fait l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non, ni même une question de bonne vue. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang, ou je ne sais quoi, et puis de là, au cerveau, puis sur la langue, et puis dans ce cri. L'Amérique! Elle était déjà là, dans ses yeux d'enfant, déjà là tout entière, l'Amérique. Là qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boonman T.D. Lemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an, d'Europe jusqu'en Amérique et retour, jusqu'à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit, dans les chiottes. Les chiottes. Ils ne bougeaient pas. Mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre, mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi. J'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi. Jouer de la trompette. Alors, quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas, sur le port, je me suis mis sur les rangs, avec ma trompette. Janvier 1927. Des musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais. Et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là, à me fixer. Pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'aie fini, sans dire un seul mot, et puis il m'a demandé. C'était quoi? Je ne sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Quand tu ne sais pas ce que c'est, alors c'est que c'est du jazz. Puis il a fait un truc bizarre avec la bouche, peut-être un sourire. Il avait une dent en or, juste là, tellement au milieu qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. Ils en raffolaient de cette musique-là, là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagé. On jouait 3-4 fois par jour. D'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes, et de temps en temps, on allait voir ces miséreux des migrants et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme. Comme ça nous venait. Et quelquefois, eux aussi, ils jouaient avec nous. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser parce que si tu danses, tu ne meurs pas et tu te sens Dieu. Et on jouait du ragtime parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde. Sur laquelle Dieu danserait s'il était nègre. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Signore et Signori, Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ce navire, bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic, où on se calme, on reste assis. Le monsieur, là-haut, touche du bois, je le vois. Bienvenue sur l'océan, donc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'était un pari. Vous aviez les créanciers aux fesses? Vous êtes en retard de 30 ans sur la ruée sur l'or? Vous vouliez visiter le bateau et vous ne vous êtes pas aperçu qu'il était parti? Vous étiez juste sorti pour aller acheter des allumettes? En ce moment, votre femme est chez les flics. Elle dit pourtant, c'était un type bien, tout à fait normal, 30 ans de mariage et pas une dispute. Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien fiche ici, à 300 000 de n'importe quel bon dieu de monde et à 2 minutes du prochain dégueulis? Pardonnez-moi, madame, je plaisantais. Ne vous inquiétez pas, ce navire file telle une boule de billard de l'océan. Tchac, plus que 6 jours, 2h47 et blop, dans le trou, New York. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer que ce navire est, à bien des égards, un bateau extraordinaire. Et tout compte fait, unique en son genre. Sous le commandement du capitaine Smith, claustrophobe notoire et homme d'une grande sagesse, vous avez sans doute remarqué qu'il dort dans un canot de sauvetage, travaille pour vous une équipe pratiquement unique de professionnels qui tous sortent de l'ordinaire. Paul Zieszynski, notre pilote, ancien prêtre polonais, sensitif, pranothérapeute, hélas aveugle. Bill Young, notre radio, grand joueur d'échecs, manchot et affligé de bégaiement. Notre médecin du bord, le docteur Klausersmann's Pitch Wegen Doftentag, pas très pratique en cas d'urgence, mais surtout monsieur Pardin, notre chef cuisinier, arrivé directement de Paris, où il est cependant aussitôt reparti après avoir constaté de visu que ce navire, par une curieuse circonstance, est totalement dépourvu de cuisine, comme l'avait d'ailleurs finement remarqué monsieur Camembert, cabine 12, qui s'est plaint aujourd'hui d'avoir trouvé son lavabo rempli de mayonnaise, ce qui est surprenant car en général, dans les lavabos, nous rangeons les tranches de fromage, ceci en raison de la non-existence des cuisines, à laquelle il faut d'ailleurs attribuer l'absence sur ce navire de véritables cuisiniers, ce qu'était, sans aucun doute possible, M. Pardin, aussitôt reparti pour Paris, d'où il arrivait directement, persuadé de trouver ici des cuisines qui, reconnaissons-le, si l'on s'en tient au fait, n'y sont pas, et cela en raison d'un amusant oubli de l'homme qui a conçu ce navire, l'éminent ingénieur Camilleri, anorexique de réputation mondiale, auquel je vous demanderai de bien vouloir adresser vos applaudissements les plus chaleureux. Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Peut-être, en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe, un pilote aveugle, un radio qui bégaye, un docteur au nom imprononçable, tous réunis sur le même navire et pas de cuisine. Peut-être. Mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau. En plein milieu de l'océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'inimitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. À la clarinette, Sam Sleepy Washington, au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Tooney, trombone, Jill June Breath Gallup. À la guitare, Samuel Hopkins. Et enfin, au piano, Danny Boodman Teddy Lemon Novecento, le plus grand. Et il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique. Lui, c'était autre chose. Lui, il jouait. Quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à le jouer, ok? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Ça n'était plus là, définitivement. Danny Boodman Teddy Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe. Sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait, « Tu n'es vraiment pas fichu tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter. » Son histoire, à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue, à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau. Parce que j'étais son meilleur ami. J'en ai fait des conneries. On me mettrait la tête en bas que rien ne sortirait de mes poches. Même ma trompette, je l'ai vendue. J'ai tout vendu, quoi. Mais cette histoire-là, non. Cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là, limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l'être quand elle était jouée au beau milieu de l'océan par le piano magique de Danny Putman, Teddy Lemon, Novecento. Fin de l'extrait.
Et voilà, c'est ainsi que se termine notre premier enregistrement de l'émission La Voix de la librairie. Je tiens à remercier d'abord David, notre hôte et le propriétaire de la librairie Saint-Jean-Baptiste. Je tiens à remercier nos invités du mois, Huguette Dugas et Xavier Bélanger-Dorval, M. Émile Grigorov, qui va donner une conférence intitulée « Dostoïevski, le messager de l'autre monde » le 12 novembre à 19h30 à la librairie, à la technique Rémi Bourdillon, et enfin, le dernier mais non le moindre, Big Nick, sans qui rien n'aurait été possible, qui nous héberge sur le site de Radio Fiat Lux. Merci, bonsoir.